Laudetur Jesus Christus.
Accord de gouvernement en Allemagne entre les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux. Le programme des quatre prochaines années a été présenté cet après-midi par le futur chancelier Olaf Scholz. Audience générale ce matin du pape François qui a poursuivi sa réflexion sur Saint Joseph. Il l'a présenté comme une figure centrale de l'histoire du salut pouvant accompagner les chrétiens d'aujourd'hui. Les Libyens aux urnes dans un mois pour élire leur président. Ce scrutin tant voulu par la communauté internationale présente plusieurs failles. Nous y revenons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonsoir. Après 8 semaines de négociations, le social-démocrate Olaf Scholz a présenté ce mercredi son contrat de coalition pour l'Allemagne. Contrat négocié durant 8 semaines avec les écologistes et les libéraux. L'Allemagne aura donc très bientôt un gouvernement. Dans une dizaine de jours, Olaf Scholz sera d'ailleurs élu chancelier par le Bundestag. En attendant, lui et ses nouveaux partenaires ont surtout promis du changement, notamment en matière de politique climatique et économique. Les détails à Berlin avec Delphine Herbolier.
Les trois partenaires l'admettent, les négociations ont parfois été difficiles. Mais au final, ils ont réussi à se mettre d'accord sur les grandes lignes de la politique des 4 prochaines années. Sociaux-démocrates, écologistes et libéraux promettent la transformation écologique et économique. Olaf Scholz, le futur chancelier, l'affiche. Il veut faire de l'Allemagne le pionnier de la politique climatique. Pour cela, le futur gouvernement se dote d'un super ministre du climat et de l'écologie. Ce sera l'écologiste Robert Habeck, futur homme fort de la politique allemande avec Olaf Scholz. L'Allemagne confirme aussi vouloir sortir du charbon d'ici 2030, soit 8 années plus tôt que prévu. Le futur chancelier Olaf Scholz met aussi l'accent sur le social. Le gouvernement promet une offensive en matière de construction de logements, la hausse du salaire minimum, une refonte du système des assurances chômage. Au total, c'est une décennie d'investissement que souhaite lancer le gouvernement. Et cela sans augmenter les impôts ni les dettes. Une quadrature du cercle que devra gérer le futur ministre des Finances, le libéral Christian Lindner. Berlin, Delphine Herbolier pour Radio Vatican.
En Suède, la nouvelle première ministre aura fait un passage éclair à la tête du gouvernement. Magdalena Andersson, qui venait d'être élue aujourd'hui, était contrainte de démissionner quelques heures après. En effet, son budget a été refusé et ses alliés écologistes ont quitté tout bonnement le gouvernement. Décès aujourd'hui au large des côtes françaises d'au moins 27 personnes selon un dernier bilan, 27 personnes qui tentaient de rejoindre l'Angleterre depuis Calais. Annonce du gouvernement français, au moins 5 autres migrants ont été repêchés vivants par la Marine nationale. Le Premier ministre Jean Castex vient de déplorer une tragédie dénonçant les passeurs criminels qui exploitent la détresse et la misère de ces gens. La pandémie de Covid-19 poursuit son avancée en Europe. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, l'agence sanitaire de l'UE chargée des épidémies, préconise de prendre urgemment des mesures pour faire face à la dernière vague de Covid. Hier, c'est l'OMS qui avait exprimé ses vives inquiétudes, craignant la mort de 700 000 personnes supplémentaires d'ici au printemps sur le continent. En écho, la Slovaquie vient d'annoncer de nouvelles restrictions. À partir de samedi, la fermeture des restaurants et des magasins non essentiels à partir de demain. A donc été décidé. Les écoles, elles, resteront ouvertes. L'Union européenne poussait à être encore plus ferme avec le régime belarusse d'Alexandre Loukachenko. La chef de l'opposition belarusse, Svetlana Tikhanovskaya, s'exprimait aujourd'hui dans l'enceinte du Parlement européen, assurant que pendant que l'Europe hésite, le temps passe pour ceux qui sont injustement emprisonnés, tués ou exilés, a-t-elle déclaré. Hier, la Commission et le Conseil européen ont annoncé leur décision de prendre de nouvelles sanctions contre Minsk. Au Vatican, le pape François poursuivit son cycle de catéchèse sur Saint Joseph, le décrivant comme une figure centrale de l'histoire du salut. Lors de l'audience générale ce matin, Salle Paul VI, le Saint-Père a en effet montré l'importance du rôle du père putatif de Jésus et combien il peut accompagner les chrétiens d'aujourd'hui. Les précisions d'Adélaïde Patrignani.
Si l'on veut mieux connaître Saint Joseph, c'est dans les évangiles de Luc et de Matthieu qu'il faut plonger. Chacun présente Joseph comme le père à plein titre de Jésus. Par lui s'accomplit l'histoire de l'alliance et du salut entre Dieu et l'homme, a rappelé le pape. Sa présence est pourtant discrète et silencieuse. De quoi en tirer un enseignement?
Egli ci ricorda Che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in seconda linea hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza.
Il nous rappelle que tous ceux qui sont apparemment cachés ou en seconde ligne ont un rôle sans égal dans l'histoire du salut, a expliqué François. Le monde a besoin de ces hommes et de ces femmes. Joseph apparaît aussi comme le gardien de Jésus et de Marie. Il est donc le gardien de l'Église, prolongement du corps du Christ, qu'il continue à protéger depuis le ciel. Et il appelle plus spécialement les croyants à se sentir les gardiens de leurs frères et sœurs, de ceux que le Seigneur nous confie à travers les circonstances de la vie. Le Fils de Dieu, pour venir au monde, a choisi la voie des liens, a enfin remarqué le souverain pontife. Par Saint Joseph, ce sont les liens humains qui sont honorés. Actuellement, beaucoup sont en manque de ces relations, confrontés à la solitude ou au découragement. François les a confiés à la protection de Saint Joseph dans une prière récitée en conclusion de cette audience.
Adelaide Patrignani, avant l'audience, le pape a salué les membres de l'association italienne des victimes de la violence. Il a remercié les bénévoles de cette association pour leur travail d'assistance et de soutien à celles qui sont maltraitées et qui ont subi des situations d'angoisse et de malaise. Demain sera célébrée la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Télégramme de condoléances du pape aujourd'hui au président de Macédoine du Nord. Le Saint-Père assure de sa prière les victimes de l'accident de car survenu mardi en Bulgarie. 46 personnes, dont 12 mineurs, ont péri calcinées dans le véhicule. La plupart des victimes sont des Macédoniens du Nord. Les causes de cet accident, le plus meurtrier en Europe depuis 10 ans, ne sont pas encore connues. Attaque aujourd'hui d'un lycée du Cameroun dans la région anglophone du Sud-Ouest par des hommes armés non identifiés. 3 élèves et une enseignante ont été tués. Plusieurs autres personnes ont été blessées selon les premiers témoignages recueillis dans cet établissement bilingue anglais-français. Les assaillants ont ouvert le feu lançant des explosifs dans les classes. Aucune revendication n'a été faite pour le moment. C'est donc dans un mois que les Libyens éliront en principe leur président. Une élection censée apporter un peu de stabilité après 10 ans de guerre et de chaos qui ont suivi le renversement du colonel Kadhafi. Un scrutin surveillé de près par la communauté internationale qui, lors de la conférence de Paris du 12 novembre dernier, a réaffirmé son attachement à la réussite du processus démocratique libyen. 98 candidats se présentent, parmi eux le maréchal Haftar qui contrôle l'est du pays ou Saif al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien dictateur. Malgré l'engouement apparent que suscite ce rendez-vous électoral, le processus politique est fragile, comme le souligne Jalal Archaoui, membre du Centre de réflexion Global Initiative à Genève, spécialiste des pays d'Afrique du Nord.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est le caractère fragile des lois électorales qui ont été improvisées par des individus qui sont intéressés à candidater. Donc vous pouvez imaginer les conflits d'intérêts que cela suppose. Ces lois électorales ont été passées en catimini au mois de septembre et au mois d'octobre. Et dans une atmosphère plus saine, il aurait dû y avoir plus de temps pour en discuter et éventuellement effectuer des amendements. Les lois électorales ne sont pas fragiles par hasard, elles sont fragiles presque par conception. Cela veut dire concrètement que si effectivement le premier tour des présidentielles a lieu le 24 décembre, ce qui existe dans les livres, si vous voulez, d'un point de vue législatif, est tellement incomplet que cela peut créer une atmosphère non seulement polarisée, violente, mais aussi avec aucune garantie légale qu'il y ait un second tour à la présidentielle et encore moins des législatives avec une certaine simultanéité vis-à-vis du second tour de la présidentielle. Le fait de s'obséder, de focaliser comme ça sur le premier tour de la présidentielle, ça peut laisser la Libye complètement au milieu du guet avec une expérience qui finalement aura discrédité l'exercice démocratique en plus de venir exacerber la crise.
Si on revient un peu sur les principales personnalités qui ont fait acte de candidature, il y a l'actuel Premier ministre de transition, Abdelhamid Dbeiba. Quelles sont un peu ses chances?
Ce que les Libyens savent, c'est que pour la première fois, un Premier ministre jouit d'un partenariat extrêmement étroit avec le gouverneur de la Banque centrale. Et c'est un pays, la Libye, où le simple fait de pouvoir retirer son salaire sous forme d'espèces était longtemps impossible. Du fait de cette alliance absolument stratégique qui existe entre le Premier ministre et le gouverneur de la Banque centrale, cette année, certaines catégories de professions, comme par exemple les enseignants, ont reçu des augmentations de salaire. Il y a eu aussi des nouveaux programmes de bourse pour les étudiants. Mais dans un pays fatigué, le fait de livrer quelques petites réalités comme ça qui sont tangibles, ça suffit pour convaincre un certain nombre de ménages. Il ne faut pas sous-estimer la popularité qu'il apporte, même si, en théorie, il n'a pas le droit de se porter candidat.
Interrogé par Olivier Bonnel, Jalal Archaoui était ce soir l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin, 8h30 heure de Rome. D'ici là, à toutes et à tous, une excellente soirée.